Le rôle de discutant va être assumé essentiellement par Monsieur Julien Pierret, qui est docteur en droit et qui travaille au Centre de droit public. Et puis, comme les organisateurs me l'ont très gentiment proposé, je vais me permettre de faire quelques petites réflexions ou de poser quelques questions, mais de manière extrêmement naïve. Et je vous prie de m'excuser déjà pour cela, mais bien sûr, mes commentaires ne seront certainement pas aussi informés que ceux qu'aurait pu formuler M. Jouve ou que va formuler Julien Pierret à présent, car je lui cède la parole.
Merci, Madame la Présidente. Nous sommes vendredi après-midi et les deux journées de travaux auxquelles vous avez participé furent particulièrement denses. Je m'autoriserai dès lors à développer un propos peut-être plus léger, légèreté qui tranchera avec la gravité tragique de la plupart des cas exposés ces jeudis et vendredis, légèreté qui semble également imposée par la difficulté de l'exercice qu'il m'est ici demandé. En effet, comment tracer une ligne permettant dans un même élan analytique de réunir Marie-Antoinette, Bertrand Russell et Desmond Tutu ? En vérité, j'avoue être resté longuement perplexe à la suite de la lecture des textes fournis par nos trois collègues, trois textes chacun roboratifs, mais dont les objets, les angles d'approche et les conclusions me semblent toujours trop singuliers pour être rassemblés en une thèse unique. Et puis, à force de croiser l'affiche de ce colloque un peu partout dans les couloirs de la faculté de droit et de criminologie, l'illumination s'est produite. Bon sang, mais c'est bien sûr, la solution était là sous mes yeux, et dans leur immense sollicitude, c'était les organisateurs et organisatrices de ce colloque qui me la fournissaient. Car oui, qu'est-ce qui frappe là sur l'écran à la lecture du programme ? Les guillemets, bon sang, les guillemets. Pourquoi seuls les qualificatifs de judiciaire et de populaire sont ainsi placés entre guillemets, alors qu'en termes d'équivoque, les termes religieux, scientifiques, symboliques ou officiels n'ont rien à leur envier ? C'est donc à travers l'examen des usages possibles des guillemets, c'est donc en sondant ce qu'a bien pu vouloir nous signifier le comité organisateur de ce colloque en les apposant autour des termes judiciaires et populaires, que je me propose d'envisager ensemble les trois contributions présentées lors de cette quatrième session. Ensuite, et ce en vue de rendre honneur à chacune d'entre elles, je me permettrai modestement de suggérer un appareil conceptuel ou méthodologique susceptible d'enrichir les perspectives déjà très stimulantes qui nous ont été proposées. Premier arrêt donc, gare des guillemets. Une légende tenace nous enseigne que le mot « guillemets » viendrait de Guillaume, du nom d'un obscur imprimeur français du XVIe siècle qui aurait inventé le double chevron tel que nous le connaissons encore aujourd'hui. Cependant, son invention n'aurait dans un premier temps eu guère de succès, vu qu'au même moment, les Vénitiens inventaient l'italique, jugé plus élégant parce qu'aussi plus cher à réaliser, et qui concurrencera les guillemets jusqu'au XVIIIe siècle. Ainsi, avant d'avoir inventé les droits de l'homme, la France aurait inventé les guillemets. Sans doute aujourd'hui est-elle la patrie des droits de l'homme, entre guillemets, sinon entre parenthèses. Aujourd'hui encore, cette légende explique la survivance d'une typographie nationaliste qui ne dissimule pas son mépris pour ce qu'elle présente comme étant des avortons de guillemets, à savoir ses versions anglo-saxonnes ou allemandes. Or, ce récit est bel et bien une légende. L'étymologie la plus crédible de guillemets serait en réalité le terme « guy », qui est le nom d'une pièce de bois de forme conique, forme proche de la lettre grecque « lambda », qui, retournée à 90 degrés, ressemble à s'y méprendre à un chevron simple. Et cette forme, on la retrouve déjà dans les marges de manuscrits de moines copistes du XVIe et XVIIe siècle, et ce pour signaler au lecteur que les extraits ainsi identifiés sont repris des Saintes Écritures. Depuis plusieurs siècles, le guillemet est donc utilisé pour marquer la citation, pour indiquer au lecteur que l'auteur ne détient pas la paternité des phrases ainsi mises en évidence. C'est le signe du discours rapporté. Cet usage, toujours familier des scientifiques, n'est assurément pas celui qui nous occupe aujourd'hui. Mais ne le négligeons pas et souvenons-nous avec Jacques Derrida que tout commence par la citation. Cependant, les autres usages des guillemets ne constituent qu'une radicalisation de la mise à distance qu'ils expriment par la citation. Nina Katach, dans son « Que sais-je » consacré à la ponctuation, indique ainsi que, je cite, « les guillemets s'emploient surtout à présent pour les mots rares ou jugés populaires ». Et « populaire » est aussi entre guillemets décidément. Les noms de marque, les néologismes de forme ou de sens, ils permettent au scripteur de prendre ses distances à l'intérieur de la phrase avec n'importe quelle portion de texte non entièrement assumée par le locuteur, de l'isoler et de le mettre en valeur. Fin de citation. Jacques Drillon, dans le même sens et son traité de ponctuation française, identifie les guillemets d'ironie, ironie parfois dirigée vers l'auteur lui-même, les guillemets taquins, affectueux ou méprisants. Les possibilités de guillemettage sont quasi infinies, nous disent encore Olivier Houdard et Sylvie Prioul dans leur très drôle ouvrage « La ponctuation ou l'art d'accommoder les textes ». Dans la littérature, on nomme cette pratique de modalisation métalinguistique, procédé par lequel on modalise un énoncé en assumant sa subjectivité. Au mieux, les guillemets sont le signe d'une réflexivité de l'auteur. L'auteur s'interroge, doute de ce qu'il écrit, craint aussi ce que l'on pourra penser du choix des mots auxquels il aura procédé. Les guillemets expriment la précaution, parfois même le malaise du sujet parlant. Malaise avec la langue, mais malaise aussi et surtout avec la réalité que cette dernière est supposée exprimer. On cherche à tenir à l'écart certaines significations en même temps qu'on essaye de garantir une ouverture vers une autre appréhension, nous dit Anne Van Sevenant. Les guillemets peuvent ainsi constituer une invitation au dialogue, mais un dialogue biaisé ou plus exactement indéterminé. Il appartient au lecteur de les interpréter sans que, par définition, l'auteur ne puisse valider l'interprétation choisie. Les guillemets, c'est donc surtout « débrouille-toi ». Et c'est cette latitude interprétative, comme la nomme Jacqueline Autier, qui suscite la polémique. À l'opposé de la fascination que suscitaient les guillemets chez un Nietzsche ou un Barthes, on trouve aujourd'hui des pamphlets stigmatisant ces « pincettes postmodernes trop grossières pour être honnête », expression délicieuse que l'on retrouve dans un billet d'humour intitulé « Les guillemets énervants » de Théo Haché et publié dans la Revue Nouvelle d'octobre 2008. Les mots ont un sens, si on les met entre guillemets, on parvient à le troubler, mettent en garde Michel-Antoine Burnier et Patrick Rambaud dans Le journalisme sans peine, ouvrage par lequel ils stigmatisent la novlangue journalistique, précisément si friande de guillemets. Alors quoi ? Ironie, malaise, mépris vis-à-vis du peuple ou du juge ? Je pense que les organisateurs et organisatrices du colloque ont voulu aller plus loin, ont sans doute poussé la logique de distanciation jusqu'à son point ultime, à savoir la négation même des termes. Nos guillemets seraient ainsi des guillemets annihilants. Et cette interprétation radicale de cet usage idoine des guillemets, elle me semble confirmée par les trois textes présentés cet après-midi, textes dont privilège du discutant oblige, j'ai pu prendre connaissance dans leur quasi-intégralité. Commençons par la notion de populaire qui renvoie donc au peuple, puisqu'il n'est pas question ici d'évoquer le sème de popularité, bien entendu. Le terme « peuple » est évidemment problématique. Il ne semble pas d'ailleurs faire partie des concepts heuristiques de la sociologie, à l'inverse des notions de classe sociale, voire de communauté. Le peuple est plutôt du ressort de la philosophie politique. Hobbes et surtout Rousseau furent d'ailleurs parmi les premiers à l'ériger comme source originelle, voire titulaire exclusif de la souveraineté. Le peuple renvoie donc à une réalité fantasmée du corps social. Son usage est de l'ordre de la légitimité, plus exactement de la légitimation des mesures adoptées en son nom. Ce peuple introuvable l'est d'ailleurs dans les trois cas étudiés par nos invités de cet après-midi. Ainsi, Vincent Lefebvre nous rappelle certes que le terme « peuple » figure tant dans la phrase de Danton justifiant la terreur et qu'il vient de citer. Le terme « peuple » apparaît également dans la conclusion du président du tribunal révolutionnaire. La thèse que Vincent défend est celle d'une reine vue comme « ennemie du peuple ». Cette expression est aussi entre guillemets dans le texte écrit. Peuple à qui elle aurait suggéré de manger des brioches à la place du pain, devenu denrée rare. Sauf qu'évidemment, Marie-Antoinette n'a jamais prononcé cette phrase, que l'on retrouve par contre, sous plusieurs variantes, dans les recueils de plaisanteries arabes du XIIe siècle, dans le contexte des révoltes paysannes du XVIe siècle, et même dans les récits accompagnant les périodes de famine en Inde ou en Lettonie. Bref, si Marie-Antoinette est une ennemie du peuple à plusieurs visages, nous dit Vincent Lefebvre, force est de constater que le peuple n'est pas moins polymorphe. Loin de constituer une entité unanimement révolutionnaire, le peuple français est plus divisé. N'est-ce pas d'ailleurs la crainte d'une contre-révolution qui justifia le procès expéditif de la veuve Capet ? N'est-ce pas aussi d'autres représentants du peuple qui tenteront d'organiser son évasion de la conciergerie, représentant d'un peuple donc bien différent de celui qui la condamnera à l'échafaud ? Sandrine Lefranc, quant à elle, montre bien que sous couvert de constituer une modalité ouverte de construction de la vérité censée largement offrir une tribune au peuple, les mécanismes de réconciliation et de vérité sont surtout massivement investis par des experts, parfois même étrangers, qui ont avec le temps formé une sorte d'oligarchie autorisée, rassemblée dans ce que l'on pourrait appeler une industrie de la réconciliation. De plus, et l'exemple sud-africain est édifiant, loin d'être totalement ouverte, ces commissions procèdent par filtrage successif et reposent ainsi sur une soigneuse sélection des victimes dont le témoignage sera le seul autorisé. Enfin, les tribunaux populaires me semblent n'avoir de populaire que le nom. Déjà, c'était mal parti. La figure tutélaire du dispositif, Bertrand Russell, est tout sauf un représentant du peuple. Pur produit de l'aristocratie britannique, professeur d'université, prix Nobel de littérature, vous en connaissez beaucoup, vous, des membres du peuple qui présentent un tel pédigré. Plus sérieusement, au moins trois éléments permettent de questionner la dimension véritablement populaire de ces initiatives. Tout d'abord, Gaël Breton-Le Goff nous dit bien qu'il arrive que celle-ci soit prise par un petit groupe de personnes, parfois même deux personnes, et deux personnes ne suffisent pas à faire peuple, quand bien même prétendent-elles agir en son nom. Ensuite, on constate une fois de plus un recours massif à l'expertise, signe de la prétention à la scientificité que présentent les investigations menées par ces tribunaux d'opinion. Enfin, et plus fondamentalement encore, comment envisager comme populaire un dispositif dont l'objet même est de fonctionner sur la base de rites extrêmement codifiés, qui se déroulent dans un décorum particulier, bref, qui prend une forme située à l'opposé de la discussion populaire ? Comment ne pas souligner le paradoxe de ces tribunaux qui, partant d'un échec et d'une trahison de l'ordre international, repose sur une utilisation du droit international et mime les procédures suivies par les juridictions internationales, reproduisant ainsi les éléments clés du système de domination qu'ils prétendent contester. Le paradoxe se fait vertigineux quand les conclusions de ces tribunaux appellent à l'adoption de nouvelles normes et la création de nouveaux tribunaux, ainsi en matière environnementale, normes et tribunaux sans doute annonciateurs de futurs échecs et de nouvelles trahisons. La démonstration sera sans doute plus délicate s'agissant d'interroger l'existence du juge dans les trois champs étudiés. En effet, la figure du magistrat est à chaque fois présente. On trouve des professionnels du droit ayant exercé ou exerçant toujours une fonction judiciaire officielle au procès de Marie-Antoinette, dans les commissions de réconciliation et de vérité, ainsi qu'au sein des tribunaux d'opinion. Néanmoins, constatons que ces magistrats ne sont plus seuls. Ils partagent leur pouvoir exorbitant avec d'autres acteurs. Ils semblent en quelque sorte dilués au sein d'un rassemblement parfois hétéroclite d'acteurs divers. Au procès de Marie-Antoinette, la mission de jugement est par ailleurs déléguée à un jury de patriotes. Du reste, la dimension judiciaire de la procédure suivie lors du procès de Marie-Antoinette est à relativiser vu l'absence totale de garantie au bénéfice de l'accusé, l'énormité des accusations et l'indigence des preuves. Enfin, compte tenu de ces éléments, c'est même l'établissement d'une quelconque vérité qui semble complètement absente de ce procès. Dans les commissions de réconciliation et de vérité, parmi les différents registres de vérité articulés, Sandrine Lefranc nous a évoqué les vérités factuelles, narratives et personnelles, sociales ou encore curatives, on ne trouve pas la notion de vérité judiciaire et c'est parfaitement compréhensible vu la tentative de rupture que ces commissions poursuivent par rapport à l'établissement judiciaire des faits et des responsabilités. Enfin, il semble également que la notion de vérité judiciaire soit reléguée au second plan de l'activité des tribunaux d'opinion. Soit ceux-ci se concentrent essentiellement à l'établissement d'une vérité factuelle, richement documentée, bref, couvrant un spectre plus large que la réduction opérée par la qualification juridique. Soit, et Gaël Breton-Le Goff insiste à plusieurs reprises sur ce point, ces commissions développent un raisonnement judiciaire frustre, ne répondant pas au canon de l'office du juge tel que nous la connaissons dans nos systèmes juridiques. En conclusion, ces guillemets ne seraient rien d'autre que la prise d'acte de la disparition des termes qu'ils enserrent. Ni le peuple, ni le juge ne semblent réellement au cœur des dispositifs étudiés. Dès lors, la vérité qu'ils produisent ne pourrait être qualifiée valablement, c'est-à-dire sans guillemets, de judiciaire ou de populaire. Certes, ces termes sont régulièrement au centre des discours développés dans ces trois différents cénacles, mais il semble évident que ces usages participent non pas de la description d'une réalité, mais bien d'une opération de légitimation des activités menées. Permettez-moi, Madame la Présidente, de terminer rapidement cette invitation à la discussion en suggérant humblement à chacun et chacune de nos invités une piste de réflexion qu'ils et elles pourraient intégrer dans leurs recherches futures. Ainsi, Vincent Lefebvre, en lisant votre article, le souvenir d'une conférence de Gérard Noiriel, à laquelle j'avais jadis assisté, m'est revenu en mémoire. Lors de cette conférence, Gérard Noiriel nous présentait la socio-histoire, nouvelle discipline hybride, mais dont le tout est plus que la somme des parties. Je me demandais dans quelle mesure vos travaux pouvaient ou pourraient s'inscrire dans ce courant de recherche dès l'instant où vous mobilisez une démarche historique indexée à l'étude des relations de pouvoir et de domination. En outre, la socio-histoire est directement orientée vers la plus fine compréhension du présent. Elle se propose en effet d'établir la généalogie critique de notions, l'émergence du sentiment national, la constitution d'une classe sociale ou encore la construction du problème migratoire, notions encore au cœur des conflits sociaux aujourd'hui observés. Or, je ne peux m'empêcher d'établir un parallèle certes audacieux entre le destin tragique de Marie-Antoinette, tour à tour symbole de la perversion monarchiste chez les républicains, figure martyr des excès révolutionnaires durant la Restauration, et objet d'un culte contemporain, qu'il nous suffise de nous rappeler les files devant le Grand Palais au printemps 2008, où se tenait une magnifique et émouvante exposition lui étant consacrée et que j'eus la chance de visiter. Bref, je ne peux m'empêcher d'établir un parallèle entre l'épouse de Louis XVI et le sort de nombre de chefs d'État contemporains, eux aussi soumis aux girouettes idéologiques, eux aussi tantôt adulés et soutenus, tantôt exclus et poursuivis sans relâche. Bref, j'ai pensé à tous ces dirigeants passés de l'hégémonie aux gémonies, au gré des bougies dans l'agenda politique des puissances occidentales. Gaël Breton-Le Goff, vos recherches me sembleraient pouvoir être éclairées d'un jour nouveau par la sociologie des mouvements sociaux. En effet, les tribunaux que vous étudiez me semblent constituer des excroissances de mouvements sociaux plus larges, qu'il s'agisse du mouvement pacifiste, féministe ou, entre autres, environnementaliste. Or, au moins deux paradigmes de la sociologie des mouvements sociaux, paradigmes se proposant d'étudier la fonction du registre juridique dans le cadre d'actions revendicatives, pourraient compléter votre perspective. Je songe ici à la notion de cause lawyering, qui étudie le rôle des juristes engagés dans le développement d'une cause. Je songe aussi, et plus largement, à la notion de cadre de la mobilisation et au rôle du droit dans la constitution d'un tel cadre, le cadre de la mobilisation étant compris comme une sorte de grille de lecture du problème, de la cible et des solutions, grille de lecture suffisamment partagée par différents acteurs pour permettre une mobilisation conjointe. Or, nombre de travaux envisagent de façon critique le cadrage normatif des causes. Autrement dit, ils mettent à jour les effets pervers du choix de prendre le droit comme axe constitutif du cadre de la mobilisation. Enfin, Sandrine Lefranc, votre conclusion sur l'ambivalence des relations qu'entretiennent les commissions de vérité et réconciliation avec le système pénal est tout à fait fascinante. Ainsi, en se posant comme alternative à la démarche punitive classique, les commissions de réconciliation et de vérité participeraient en réalité à la relégitimation de cette démarche. Vous démontrez en effet que l'articulation loi d'amnistie, commission de vérité et de réconciliation, poursuite judiciaire est problématique et rarement rencontrée de façon harmonieuse. Loin d'ouvrir une voie parallèle au procès pénal, ces commissions sont parfois et paradoxalement la première étape d'une démarche judiciaire à venir en, je vous cite, « légitimant le point de vue des victimes et par là les demandes de poursuite généralement formulées par ces victimes ». Cette situation me semble pouvoir s'inscrire dans le débat désormais classique relatif aux fonctions de légitimation réciproque qui se donne à voir par l'étude des relations entretenues entre le système pénal et les droits de l'homme. Ces derniers ne sont pas tant des obstacles à l'intervention punitive des autorités, mais constituent au contraire le cadre permettant à ces interventions de se déployer de façon légitime. Ainsi, les droits de l'homme et la poursuite de leur effectivité seraient un obstacle cognitif et idéologique à penser le changement dû et en droit pénal. Une métaphore qui nous est proposée par le philosophe Paul Watzlawick permet de saisir cette impasse. Il s'agit de la bouteille à mouche. Ce type de bouteille constitue un piège pervers en vue de capturer les insectes. Ceux-ci s'aventurent dans la bouteille par une sorte d'entonnoir dont le conduit se rétrécit au fur et à mesure qu'il pénètre à l'intérieur de la bouteille. L'insecte, une fois à l'intérieur, se refuse à emprunter le même chemin pour en sortir. Alors que de l'extérieur, l'entrée apparaissait accueillante, car au départ large et confortable, de l'intérieur de la bouteille, la sortie semble périlleuse, car bien trop étroite. Dès lors, l'insecte reste prisonnier de la bouteille. Le criminologue Alvaro Pires a utilisé cette métaphore dans le cadre de ses travaux sur la rationalité pénale moderne, en démontrant que toute alternative à cette rationalité, rationalité articulée sur les fonctions dissuasives et rétributives du système pénal, participe en réalité à renforcer la logique prétendument contestée. En d'autres termes, les commissions de réconciliation et de vérité nous enfermeraient dans une telle bouteille. Nous pensions offrir une alternative à la punitivité traditionnelle. En réalité, nous ne faisons que contribuer au renforcement de sa légitimité. Voilà, chers collègues, les quelques éléments de réflexion que je souhaitais partager avec vous et que la lecture particulièrement enrichissante des trois textes présentés cet après-midi a suscité. Je souhaiterais féliciter les organisateurs et organisatrices de ce colloque pour le formidable programme qu'ils et elles nous ont proposé hier et aujourd'hui et vous remercie tous et toutes pour votre attention.